France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
8h30, notre invité ce matin, je suis ravi d'être avec vous, Emmanuel Bertrand, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Avec Enfin, ces suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Vous enregistrez depuis 20 ans, votre premier disque, vous l'avez enregistré il y a tout juste 20 ans. Et les voici, chez Harmonia Mundi, ces 6 suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Est-ce qu'elles vous faisaient peur?
Alors non, c'est absolument pas l'explication. En fait, j'ai attendu que ce soit une nécessité absolue pour moi de les enregistrer. Et ça l'est devenu au moment où j'ai posé les mains sur ce violoncelle de Carlo Tononi, en avril 2016. C'est la rencontre avec cet instrument qui a suscité ce projet. Et cette bascule de le jouer dans son montage d'origine, c'est-à-dire avec des cordes en boyau, enfin dans sa version baroque.
On va raconter cette rencontre avec cet instrument baroque, puisque c'est la première fois que vous enregistrez sur un instrument qui n'est pas moderne. Juste à côté de vous, là, dans le studio de France Musique, il y a votre violoncelle avec un étui. Enfin, j'imagine qu'il est dans l'étui. L'étui est jaune. Là, il y a quel violoncelle dedans?
C'est le Tononi.
C'est le Tononi qui est avec nous.
C'est une question pertinente parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours le cas.
Le Tononi, le voici. Au commencement, était la première suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach et son prélude. Enregistré dans la très belle acoustique de cette église Notre-Dame de Bon Secours, avec une prise de son signée
Alban Moreau.
Alban Moreau, oui. On vous entend au casque, en tout cas, respirer sur ce prélude, Emmanuel Bertrand, prélude de la première suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Tout est donc parti d'une rencontre avec ce violoncelle qui est avec nous dans le studio. Comment l'avez-vous rencontré?
Ah, c'est un long cheminement parce que, vous savez, par fidélité, je n'ai joué mon violoncelle moderne de Jean-Louis Prochasson qu'exclusivement pendant plus de 20 ans. Et j'étais tout à fait heureuse sur cet instrument. Et puis, bon, la valeur qu'on accorde, la valeur marchande qu'on accorde aux instruments anciens est quelque chose qui me gêne. Voilà, il y a un tel décalage entre l'objectif, ce qu'on en fait, la nécessité pour les musiciens de s'approprier un instrument et puis les spéculations qu'il peut y avoir autour, que je m'étais toujours détournée de ce monde-là. Et puis, bah, malgré tout, j'ai eu l'occasion d'essayer certains instruments de mes copains violoncellistes et au fil des années de me dire, mais peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai laissé un peu de côté dans la quête du son. C'est-à-dire que sur mon violoncelle moderne, tout est possible, mais je dois l'inventer, je dois le fabriquer. Et ce qui a été vertigineux quand j'ai découvert celui-ci, c'est qu'en fait, j'ai eu l'impression d'avoir à me laisser guider par lui. Et donc de devoir abandonner vraiment, de lâcher prise. Et ça a été un parcours initiatique parce que c'était comme si tout à coup je me sentais guidée sur des questions de rhétorique, de densité harmonique, ou comme si la distance entre le texte et le jeu était tout à coup effacée. Je n'avais plus à concevoir, mais simplement à me laisser fondre dedans. Alors ça paraît simple comme ça, évidemment, c'est beaucoup de travail, et il faut pouvoir oublier l'instrument, et puis c'est aussi une autre technique que de jouer.
La technique aussi, je voulais vous en parler, comment on passe de l'un à l'autre, ça se fait dans la douleur.
Alors en fait, au départ, je ne l'ai pas joué en baroque, mais en moderne, puisqu'il était monté en moderne, et d'ailleurs je le joue beaucoup aussi en moderne.
Vous pouvez nous expliquer, ça veut dire quoi, un instrument ancien monté en moderne?
Vous avez tout à fait raison, c'est une question fondamentale. Il y a d'abord la question du diapason, qui n'était pas fixe à l'époque baroque, donc là j'ai enregistré à 415 et non pas à 442, ce qui fait à peu près un demi-ton d'écart, plus bas. Mais il y a tout le matériau aussi, c'est-à-dire qu'on ne joue pas des cordes en métal, on joue des cordes en boyau. Les cordes en boyau sont beaucoup plus souples, il y a beaucoup moins de tension sur l'instrument. Donc le fait qu'il soit accordé plus bas minimise la tension, mais le fait que la matière ne soit plus du métal aussi, il y a des kilos de pression en moins. Puis l'archet est différent, on joue l'archet baroque dont la courbe est inversée, il est courbé vers le haut et non pas vers le bas. On le tient différemment, plus proche du centre, du point d'équilibre. Et puis il n'y a pas de pic non plus. Et ça c'est un changement énorme. En travailler sans pic, pour la musique de cette époque, je le faisais depuis toujours sur mon violoncelle, quel qu'il soit. Mais voilà, là c'est vraiment, c'est différent de jouer en concert aussi, d'enregistrer. Ça, je ne l'avais jamais fait. Et ça change la posture. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de s'appuyer sur la pique pour donner de la puissance, pour jouer dans des salles de plus en plus grandes. Là, c'est tout le contraire, en fait. Il n'y a plus aucun appui autre que celui des pieds. Et donc le violoncelle bouge et danse avec vous. Il y a une forme d'équilibre à trouver.
Ça voilà. Tombe bien, ce sont des danses.
Tout à fait.
Vous avez ça en esprit quand vous jouez depuis toujours, on peut dire, cette musique, ces six suites, que c'est d'abord des danses.
Oui, sauf que c'était quelque chose de plus... comment dire, de plus théorique avant cette expérience-là. C'est-à-dire que je connais les structures de danse, je connais leur structure harmonique, voilà, les questions de tension, détente, avec une idée du tempo que ça peut générer, sauf que là, ça n'est plus par la réflexion et par la projection mentale, mais simplement par le fait de se glisser dans une sonorité, de se laisser guider. Les carrures de danse deviennent complètement évidentes. Enfin, en tout cas, c'est la perception que j'en ai eue.
On va réécouter tout à l'heure un autre extrait de ce disque qui vient de paraître, les six suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach avec cet instrument. C'est quoi son petit nom alors ?
Carlo Tononi. C'est un vénitien.
Un instrument vénitien, un vieux vénitien que vous avez donc rencontré pour ces suites. Vous voulez jouer comme quasiment tous les violoncellistes quotidiennement ou pas ?
Ah, depuis trois ans, oui. Oh, ça, c'est un peu. Je me dis parfois qu'il y a un peu de légende dans ces dans ces témoignages, parce que la vie des musiciens n'est pas aussi régulière qu'on puisse vraiment se plonger dans une œuvre quotidiennement, parce qu'il y a les voyages.
On vous imagine, vous vous levez avant le café, vous jouez
dans une cellule sarabande. De moine. Mais on vit avec, qu'on soit en train de les jouer ou pas, comme un grand nombre d'œuvres, on en est imprégné. Et puis on traverse les années avec les suites. J'ai commencé à les jouer quand j'avais 15 ans, j'en ai 45 aujourd'hui. Et mes tout premiers concerts, les premières années, c'était des récitals de suites de Bach, quand j'étais élève de Jean de Place à Lyon. Et voilà, et que je les ai joués en permanence ou que je les ai laissés sommeiller pendant quelques temps, je pense qu'elles ont... elles ont mûri avec moi et elles sont toujours là.
Emmanuel Bertrand, les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, on y revient dans quelques minutes, mais on va sortir le carré rose. Vous voici avec votre mari Pascal Amoyel dans cette pièce érotique. Pièce érotique d'Edouard Grieg à 8h43 sur France Musique. Emmanuel Bertrand au violoncelle, Pascal Amoyel au piano. Pascal, que nous recevrons tout prochainement ici dans Musique Matin pour son spectacle qui démarre dans quelques jours à Paris au Théâtre du Rhin-Lag, Looking for Beethoven, qu'il a tourné pas mal, qu'il a joué au Festival d'Avignon cet été. C'est lui qui vous a donné le goût au spectacle musical. Vous avez fait plusieurs spectacles ensemble sur scène, Emmanuel Bertrand. Il y avait le violoncelle de guerre notamment. Est-ce que ça, cette découverte d'un nouveau rapport à la scène, ça a changé votre façon d'être, même en concert?
Très certainement. C'est pas évident pour moi de mesurer ce qu'aurait été le parcours sans ces expériences-là. Mais en tout cas, là aussi, c'était une nécessité que de raconter des histoires. Le tout premier spectacle, concert théâtral, on ne sait toujours pas comment les appeler, que nous avons donné, Pascal et moi, nous l'avions écrit ensemble. C'était le bloc 15 avec les témoignages de ces rescapés musiciens, rescapés des orchestres, et surtout rescapés des camps à Auschwitz. Et voilà, c'est une page de l'histoire de la musique qu'on connaît peu encore aujourd'hui. Et parfois, les mots sont nécessaires pour replacer un contexte, pour simplement tendre voilà, tendre la main, rendre accessible un message que tout le monde ne perçoit pas spontanément à travers la musique. Alors ensuite, ben c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que le contexte, l'histoire alimente la réflexion sur l'interprétation, elle alimente l'inspiration, et puis l'inspiration aussi alimente la manière dont on a envie de raconter les choses, et on développe la forme, et on va de plus en plus loin en ayant des formes de spectacle qui deviennent vraiment plus complètes et plus abouties. Et le spectacle que Pascal crée actuellement, alors il l'a créé au Festival d'Avignon au mois de juillet, c'est son nouveau spectacle dédié à Beethoven pour le 250e anniversaire de Beethoven, qu'on célébrera en 2020. C'est sans doute la forme la plus aboutie de ce qu'on ait pu faire l'un ou l'autre, ou ensemble, jusqu'à présent.
Les mots et les notes, c'était le titre il y a fort longtemps sur France Musique d'une belle émission. Les mots et les notes au Perreux-sur-Marne, c'est le festival dont vous occupez tous les deux, enfin surtout Pascal.
Surtout Pascal, les notes d'automne.
Vous n'êtes pas loin, oui. Notes d'automne, ce sera en novembre avec un concert le 16 novembre, les suites de Bach. Et puis des lectures, là encore, les mots et les notes avec Alain Carré. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que ça ajoute d'avoir ce récitant sur scène avec vous?
Alors Alain Carré dit l'évangile selon Marc. Et c'est vrai que cette musique, les suites de Bach, c'est par essence une musique populaire, une musique profane, et en même temps elle a cette dimension mystique tout en s'appuyant sur des carrures de danse, sur des thèmes qui sont très très proches, très simples, qui vous emmènent vraiment dans une jubilation. Il y a cette dimension sacrée malgré tout qui est toujours présente, et voilà, c'est pas une question de croyance ou d'une forme de religion ou d'une autre, c'est simplement il y a cette dimension mystique. Alors ça tombe un peu sous le sens, et puis je pense que le violoncelle, justement, dans ces textes qui sont d'une telle ferveur, enfin voilà, beaucoup de miracles, hein. Il y a le violoncelle, je pense qu'il nous rattache à la vie, il nous rattache à la terre. Et il y a quelque chose de très humain dans le discours du violoncelle, lorsque le discours humain, lui, devient divin.
Emmanuel Bertrand, ces suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach qui sortent en disque chez Harmonia Mundi. Vous allez les jouer le 28 septembre aux rencontres musicales de Clermont-de-Lois. C'est donc dans l'Oise. Je donne quelques dates. Vexin le 6 octobre à l'église de Jamiricourt, également à Marseille le 18 octobre. Et puis le concert parisien, c'est Salle Corto le 13 novembre. Je signale que vous donnerez aussi un concert, vous participerez à un concert Salle Corto le 8 octobre, également un concert caritatif. Et puis à Neuilly-sur-Seine également le 21 décembre. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est une quand le public qui va écouter les suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach en concert le sait, qu'est-ce qui se passe quand on est seul sur scène, quand on joue cette musique? C'est assez particulier, moi j'ai rarement vu d'ailleurs des concerts de ces suites, on les écoute au disque, mais quand on est sur scène, quel est le rapport au spectateur?
Je pense que l'enjeu dans ces moments-là, c'est de disparaître, c'est de ne plus avoir à se concentrer sur le matériel et de laisser la musique passer au premier plan et prendre tout l'espace. Et dans les meilleurs moments, on a le sentiment d'être avec le public et d'être voilà, dans une forme
de communion.
Oui, de contemplation de la musique, enfin de réception de la musique. Voilà, et ça, c'est jamais gagné. C'est aussi pour ça que des moments assez éprouvant, parce que cette bascule, elle est fragile, et c'est ce qu'on vise à chaque concert, et ça dépend aussi de plein d'autres paramètres. Il faut avoir une acoustique qui vous permette de vous détendre, de vous libérer. Mais moi, ce que je découvre surtout, parce que évidemment ça c'est ma vie depuis très longtemps, ces moments de concert, et seul ou entouré, mais ce que je découvre là, c'est la perception de l'intégrale, c'est-à-dire le fait de jouer les six suites, pas forcément dans l'ordre d'ailleurs, et d'ailleurs je ne sais pas si elles ont été écrites dans cet ordre-là, mais de les concevoir comme un cycle. Et ça, c'est un parcours initiatique extraordinaire, parce qu'on passe par toutes les étapes de la vie, en fait, dans cette musique. Il y a des choses d'une évidence tellement simple, la première suite qui qui peut être associée à l'enfance. La troisième qui est tellement solaire, lumineuse. La cinquième avec cette tonalité d'ut mineur qui est dramatique. La sixième qui est une forme d'aboutissement, qui a ce côté céleste. Et puis cette polyphonie aussi qui est tout à fait inouïe dans les autres. Et voilà, et il y a un cheminement comme ça qui fait qu'on a l'impression de traverser une vie entière. Et ça, c'est quelque chose que je perçois depuis peu, parce que je donne seulement depuis quelques mois les suites dans leur intégralité.
Voici une bribe de cette vie entière. De cette bourrée, de ces bourrées de la troisième suite pour violoncelle. Elle est en ut majeur, celle-ci, de Jean-Sébastien Bach, Emmanuel Bertrand, extrait de votre disque qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Là, c'est quelle couleur pour vous sur cette suite, sur ces bourrées?
Pour moi, la troisième suite, c'est le soleil, c'est la lumière. Il y a une véhémence, une jubilation, enfin quelque chose d'entièrement positif, ouvert.
C'est facile de s'affranchir des enregistrements qu'on écoute depuis des années. J'imagine qu'il y a beaucoup d'enregistrements chers à votre cœur de ces suites, qu'au contraire, peut-être, on n'y citera sans doute pas, il y a des visions, des interprétations avec lesquelles vous n'êtes pas en phase. Comment on s'inscrit dans l'histoire du disque sur un monument comme celui-ci? Il faut vraiment s'en affranchir, on s'en occupe pas de tout.
Oui, je pense qu'il faut... ce serait une manière de faire diversion. Et dire au moment où on se plonge là-dedans, on oublie tout. Et c'est probablement aussi pour ça que la musique Et si vivante, c'est qu'on, on, en fait, elle est juste la synthèse d'un moment qui regroupe un parcours, une rencontre, enfin voilà, et l'enjeu c'est d'être dans le présent, donc c'est vrai qu'on essaye de ne pas penser, même si bien sûr j'ai été nourrie dans mon parcours et dans mon enfance et dans ma jeunesse par des versions, mais aussi par des rencontres. Il y a des versions que j'adorais quand j'avais 15 ans, et puis que maintenant il y a eu la révolution du baroque, et je fais partie de cette génération où justement on fait cette bascule. Maintenant les jeunes à 20 ans ils apprennent directement à jouer les deux instruments, mais quand j'étais au conservatoire à 15 ans, c'était pas encore complètement acquis qu'on joue la cinquième suite avec la scordatour, par exemple. Alors que maintenant, c'est une évidence, on peut pas faire autrement.
Les suites pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach, Disharmonia Mundi. Des concerts à foison, je le disais, à Marseille le 18 octobre, le 13 novembre à Paris, salle Cortot, entre autres à Caen aussi, au mémorial de Caen, le 9 novembre, le jour anniversaire de la chute du mur de Berlin, mais aussi des concerts avec orchestre. Je citais Caen, vous y serez également le 12 novembre avec le concerto de Saint-Saëns, ce premier concerto qu'on entend derrière nous avec lequel on va se quitter. Et puis tout petit mot à l'Opéra de Saint-Étienne le 19 novembre avec un concerto de Marie Jaël. C'est quoi ce concerto pour violoncelle? Je ne connais pas.
Ah, c'est une merveille. Alors Marie Jaël fait partie de ces compositrices de l'époque romantique qui ont été bâillonnées par le contexte social de l'époque et auxquelles on peut redonner la parole aujourd'hui. C'est une vraie joie.
Oui, c'était la coda de ce concerto pour violoncelle, premier concerto pour violoncelle de Camille Saint-Saëns, Emmanuel Bertrand, l'orchestre du Festival de Lucerne, dirigé par James Gaffigan. Demain, notre invité sera la chanteuse Marie-Nicole Lemieux, au générique ce matin, Salomé Koch, Marion Guillemet, Margot Muller, Cindy Le Grumelec, Alex Billard et Yacine Bouzard.
À réécouter sur francemusique.fr.